Radio Kapi.
L'actualité en cette soirée sur Radio Okapi, c'est cette prise de position affichée à travers le lancement ce vendredi du mouvement d'éveil dénommé Front pour la défense de la patrie. Clément Kankwelisanga Bonganga comme initiateur s'engage pour la mobilisation des Congolais contre toute menace de déstabilisation de la RDC en période post-électorale. Vous suivrez aussi le point sous l'arrivée depuis mercredi dans le Nord Kivu des contingents de la force régionale de la SADC, communauté de développement de l'Afrique australe. Ils sont déjà à Goma. Comme invité, vous suivrez Gershom Kahebe, acteur politique et candidat à la députation nationale dans la circonscription de Beni. Il tente de donner quelques propositions de solutions en vue d'améliorer les prochaines élections en RDC. Votre confiance à Radio Okapi, c'est notre motivation pour vous informer de la plus belle manière. Chers auditeurs, bienvenue à toutes et à tous à votre journal vespéral. Aimables auditeurs, bonsoir. Billy Van Lutumba à votre service pour la présentation de l'actualité de ce soir. Le 120e Conseil des ministres ordinaires a été organisé ce vendredi sous la direction du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, candidat à sa propre réélection. L'ordre du jour de cette réunion a prévu, outre la traditionnelle communication du chef de l'État, l'état de la situation sécuritaire et de l'économie nationale, indique la cellule de communication de la présidence. Après quelques semaines d'interruption dues à la campagne électorale et à l'organisation des scrutins nationaux, le premier ministre, les vice-premiers ministres, les ministres d'État, les ministres, le ministre délégué et les vice-ministres ont marqué leur présence à la Cité de l'Union africaine. Contrairement aux habitudes, le conseil de ce vendredi a débuté par une prière d'action de grâce. Cette première réunion du gouvernement après les élections de 2023 marque la reprise normale de la gestion de la République, écrit la presse présidentielle. Le Front pour la défense de la patrie, c'est le mouvement dit d'éveil patriotique lancé ce vendredi à Kinshasa par certains acteurs politiques, notamment Clément Kankwelisanga Bonganga. Selon ses initiateurs, ce mouvement citoyen a le seul objectif de mobiliser tous les Congolais à faire échec à toute menace de déstabiliser la RDC en période post-électorale. Il lance un appel à tous les Congolais, particulièrement aux candidats à tous les niveaux des scrutins, à privilégier la paix, la réconciliation et le patriotisme pour la stabilité du pays. On écoute Clément Kankou au micro de Grace Hamzati.
Comme vous le savez, après les élections, nous faisons face à des menaces venant parfois des agents intérieurs et extérieurs qui veulent amener ce pays dans le chaos. C'est pourquoi nous avons demandé que l'ensemble du peuple congolais puisse nous rejoindre dans ce combat pour que nous puissions défendre la patrie qui est en danger. Parce que ceux qui ne veulent pas accepter les résultats que nous sommes en train de suivre tous, ou ceux qui avaient déjà concocté leur plan, ont l'intention, comme nous le voyons, de plonger ce pays dans le chaos en utilisant le fameux article 64. Alors que nous rappelons que ceux qui doivent utiliser l'article 64 aujourd'hui, c'est nous qui défendons la patrie contre ceux qui veulent prendre le pouvoir par la force et qui veulent s'imposer par la force. Je lance ce message à l'endroit de tous les candidats. Il y a un temps pour tout. Il est temps que les Congolais se mettent ensemble. Il n'y a pas que les élections, il y a le Congo, il y a nos enfants, il y a ce pays. Allons de l'avant, mettons-nous ensemble. Je pense qu'il est temps aujourd'hui que les candidats comprennent que les élections sont passées, mais c'est le Congo qui va demeurer et c'est le Congo qui doit aller de l'avant. Donc je lance cet appel, un appel de paix, un appel de réconciliation et surtout un appel de éveil patriotique, la patrie d'abord.
Autre appel, c'est le candidat Constant Mutamba qui a déjà reconnu la victoire de Félix Tshisekedi et qui l'en a félicité, à qui appelle aussi tous les acteurs politiques à ne pas plonger le pays dans le chaos après les élections. Dans une conférence de presse ce vendredi à Kinshasa, il estime que le chaos ne profitera ni à la majorité ni à l'opposition. On écoute Constant Mutamba au micro de Vanessa Kongolo.
Ne sert à rien de chercher aujourd'hui à mettre du feu au pays. Parce que ne pensez pas que ça ne va embraser que l'adversaire. C'est nous tous qui sommes embrasés. Mais si ce pays ici est embrasé, où irons-nous encore faire cette politique? Nulle part. Donc, il ne faudrait pas être chantre du chaos. Parce que le chaos ne profitera à personne. Ni à l'opposition, ni à la majorité, encore moins au centre. Le chaos va desservir le pays. Un autre facteur majeur qui a profité à Tshisekedi. Si nous, opposition, nous étions mis d'accord pour dégager une candidature commune, nous pourrions mettre Tshisekedi en difficulté. Mais chacun a fait prévaloir son ego.
Pour sa part, l'acteur politique Luc Malembe Anituri salue le bon déroulement des élections générales du 20 décembre dernier qui se sont, selon lui, déroulées sans incident majeur dans toute la province. Il l'a fait savoir lors d'une rencontre avec la presse vendredi à Bounia à l'approche de la publication par la CENI des résultats provisoires du scrutin du 20 décembre dernier. Malgré quelques irrégularités observées dans l'organisation de ces élections générales, le plus important, dit-il, est d'avoir organisé celles-ci dans les délais fixés par la loi. Il a également remercié la MONUSCO pour l'appui logistique qui a contribué à faciliter ce processus. Il appelle tous les leaders politiques à la retenue pour préserver la relative accalmie qui y prévaut. Luc Malembe s'exprime au micro d'Ezekiel Mouzalia.
Chers compatriotes ituriens, le monitoring sans complaisance que nous avons réalisé à l'issue des élections du 20 décembre dernier a abouti aux conclusions ci-après. En Ituri, le déploiement des kits électoraux s'est effectué à temps grâce au concours des hélicoptères de la MONUSCO. Les élections se sont déroulées de manière apaisée sur toute l'étendue de la province, y compris dans les entités affectées par l'activisme des groupes armés. Je note que le peuple itourien s'est exprimé de manière souveraine et avec la sportivité politique qui m'a toujours caractérisé, je pourrais éventuellement féliciter les compatriotes qui seront proclamés vainqueurs. J'appelle par la même occasion les autres leaders politiques de la province à la retenue, compte tenu de la fragilité de la situation sécuritaire de l'Ituri, pour ne pas gâcher cette accalmie encore très précaire observée actuellement sur le terrain, fruit d'énormes efforts conjugués à la fois par les autorités militaires ainsi que par l'ensemble de nos forces vives.
Autre aspect de l'actualité, crise sécuritaire à l'est de la RDC, les premiers contingents de la force régionale de la SADC, communauté de développement de l'Afrique australe déjà à Goma depuis mercredi dernier dans la soirée. Une information confirmée par le porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu. Selon le lieutenant-colonel Dike Kaiko, la SADC avait annoncé le déploiement de ses troupes au Nord Kivu concomitamment aux conclusions d'une réunion du comité ministériel des pays de l'Afrique australe qui s'était tenue vendredi 3 novembre à Luanda en Angola. Bernardine Diambo.
Cette équipe d'avance est composée de militaires, hommes et femmes sud-africains. Leur nombre n'est pas précisé, mais ils seraient venus avec un mandat offensif, différemment de la force régionale de l'East African Community, rapportent certaines sources. Difficile toutefois de les confirmer, car les sources militaires des FARDC, moins encore celles de la SADC, ne se sont pas prononcées quant à ces. Le déploiement de ces contingents sud-africains sur les territoires congolais est consécutif au non-renouvellement du mandat de l'EAC qui a pris fin le 8 décembre dernier sur demande du gouvernement congolais. Il s'est dénoté que la SADC avait déjà déployé ses premiers officiers de commandement à Goma il y a quelques jours. C'est précisément à la date convenue en exécution de l'accord signé le 17 novembre dernier avec la RDC et le déploiement de la force de la SADC se fera progressivement, a précisé le porte-parole militaire du gouverneur de province. Pour rappel, les derniers soldats kenyans de la force régionale de l'EAC ont quitté le Nord Kivu jeudi dernier pour Nairobi, achevant ainsi totalement leur retrait du territoire congolais. Goma, Bernardine Diambou, Radio Kapi.
Dans le Nord Kivu, le chef d'antenne du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS Lubero appelle les ex-combattants cantonnés au centre des démobilisations de Kassando Kirumba dans le territoire de Lubero au calme et à la patience. C'est après une manifestation de colère de ces miliciens qui entendaient exprimer leur exaspération face aux mauvaises conditions de vie au centre. Selon Eric Katembo Massinda, chef d'antenne du PDDRCS Lubero, le bout du tunnel approche. Des mesures sont déjà prises pour l'amélioration de leur prise en charge alimentaire et sanitaire, ainsi que l'octroi de leur carte de démobilisation. Eric Katembo a été joint au téléphone par André Kitenge.
J'invite mes frères, mes sœurs, mes cousins et cousines qui sont à Kassando Estama au calme, qu'ils soient sereins. La question est prise avec considération par le président de la République qui vient d'instruire le gouverneur de s'occuper de cette situation. Il y a déjà une solution palliative quant à ça. D'ici la première quinzaine de janvier ou au mois de janvier, il y aura une équipe qui va devoir venir de Kinshasa pour procéder à la capture biométrique de ces ex-combattants qui veulent aussi être réinsérés dans leur communauté respective. Quant à ceux qui portent sur leur ration, le président de la République a déjà pris la question. Nous avons notre partenaire ex-EPR Suisse qui va devoir aussi s'occuper de leur réintégration génération maintenant. Parce qu'une fois qu'ils auront à regagner leur communauté respective, il y a des projets qui vont leur suivre chacun dans sa communauté. Et ces projets seront des projets à caractère intégrateur.
Nous allons rester toujours dans le Nord Kivu pour parler de cette organisation dénommée Tendolaro, entendue par l'Action caritative du cœur qui vient de voir le jour à Beni. D'après son initiatrice, l'objectif est d'apporter assistance aux personnes vulnérables et victimes de l'insécurité dans la région à travers des plaidoyers pour la défense de leurs droits. Aussi, l'apprentissage aux différents métiers manuels pour leur auto-prise en charge. Noëlla Nzala Mahundu explique au micro de Grévis Salomon.
Tendolaro va focaliser ses actions sur l'entrepreneuriat de jeunes, particulièrement de jeunes filles et de personnes vulnérables victimes de violences sexuelles et des atrocités. Nous serons également actifs sur les questions liées à l'environnement, le plaidoyer pour la sécurité. Tendolaro va s'employer à vulgariser les textes de la résolution 1325 relatif à la représentation et à la participation de la femme à la prévention, gestion et la résolution des conflits dont elles sont les premières victimes. À plus de l'assistance et des plaidoyers, nous allons avec l'effort des personnes de bonne volonté organiser des formations et l'apprentissage des métiers pour que les victimes ou les vulnérables se prennent eux-mêmes à charge, une sorte d'autonomisation, car comme le dit la Bible, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir.
Dans la province de la Tchopo, le problème du carburant est loin d'être résolu malgré l'arrivée d'un bateau pétrolier hier à Kisangani. Le prix reste inchangé avec son cortège des conséquences. Si dans les stations-service, un litre d'essence garde le prix de 4000 francs congolais, chez les revendeurs de ce produit, il est rare et continue à se vendre entre 16 et 20 000 francs. Le point avec Jacques Mukongole.
Les Boyomés ont poussé un ouf de soulagement lorsque le ministre de l'économie, à côté duquel se trouvait son collègue des hydrocarbures, a annoncé mercredi dernier à la télévision nationale l'arrivée des bateaux pétroliers et le début de la vente du carburant à la pompe dès le lendemain. Malheureusement, les usagers des engins motorisés et les revendeurs du carburant passent des journées entières dans les stations d'Engen pour s'approvisionner, mais en vain. En dépit de l'arrivée d'un bateau pétrolier, jeudi à Kisangani, les stations ne sont pas encore approvisionné en carburant par CEP Congo. C'est ce qui justifie un monde fou qui traîne dans les stations Engen à longueur de journée sans être servi. La situation risque de perdurer si on y prend garde. En effet, dans les milieux pétroliers, on raconte que le bateau qui est arrivé n'a transporté que 1000 mètres cubes, une quantité qui ne peut servir que pendant 10 jours, puisque, affirme-t-on, la consommation journalière est évaluée à 100 mètres cubes. Cependant, du côté des officiels, on tente d'apaiser les esprits. Un autre bateau transportant 3000 mètres cubes de carburant arriverait bientôt à Kisangani. Les mêmes sources soulignent que dans la logique du ministère de l'économie, la provision devait être de 6 mois, ceci en vue d'éviter la rupture des stocks. Jacques Mukongole, Kisangani, Radio Okapi.
Avant de passer à la page internationale, la division provinciale de la santé Kwilu a organisé jeudi dernier sa réunion du comité provincial de pilotage du secteur de santé CPPSS du deuxième semestre 2023. Au cours de cette réunion qui se tient deux fois l'an, il a été question de procéder à l'évaluation de son plan d'action opérationnel pour l'année 2023 et aussi les perspectives pour l'année 2024. L'activité a eu lieu au gouvernorat du Kwilu à Bandundu et plusieurs personnalités y ont pris part, notamment les membres du gouvernement provincial du Kwilu, les cadres du secteur de la santé du niveau national que provincial, les partenaires, les représentants de la communauté, ainsi que les secteurs connexes à la santé. Irène Boma pour plus d'explications.
Cette réunion du comité provincial de pilotage du secteur de santé CPPSS du second semestre tenu jeudi à Bandundu a pour objectif général de contribuer à la bonne marche de la couverture sanitaire universelle par la mise en œuvre de la stratégie de renforcement du système de santé dans la province du Kwilu. Docteur Dona Kumakuma, qui assume l'intérim du chef de division provinciale de la santé du Kwilu, explique l'essence des dites assises.
Ceci s'inscrit dans le cadre de non seulement simplement évaluer la mise en œuvre des activités qui nous permettent de mettre en œuvre la stratégie de renforcement du système de santé que nous avons appelé la SLSS, mais aussi de voir les plans d'action opérationnels 2023. Donc une évaluation de ces plans d'action opérationnels. On a parcouru tous les axes pour que nous puissions voir quelles ont été les forces, les faiblesses, les opportunités, les contraintes et évidemment des perspectives pour l'année 2024.
Précisons que ces travaux du CPPSS ont été présidés par les gouverneurs des provinces, représentés par Maître Alpha Luma, ministre provincial de l'énergie du Kwilu. À l'occasion, ce dernier a rassuré la DPS de l'engagement du gouvernement provincial pour la réussite des activités de la santé en province. Irène Boma, Bandundouville, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le mariage homosexuel pratique et abominable des couples gays a lapidé car ils ont choisi le diable et attirent la malédiction divine. Le président burundais Evariste Ndayishimiye s'est livré vendredi à une virulente diatribe contre l'homosexualité. Le chef de l'État de ce pays de l'Afrique des Grands Lacs chrétien et conservateur où les relations entre personnes de même sexe sont sanctionnées de peines allant jusqu'à 2 ans de prison s'exprimait lors d'une conférence publique dans la province des Tchankouzo, retransmise à la radio et à la télévision, répondant aux questions de la presse et de la population. Et puis, la Cour suprême du Tchad a définitivement validé jeudi les résultats du référendum pour une nouvelle constitution organisée par la junte militaire au pouvoir depuis 2 ans et demi, une étape clé censée ouvrir la voie à des élections fin 2024 dans le pays. D'après les résultats définitifs, le oui l'a emporté avec 85,90% des voix, tandis que le non a obtenu 14,10% des suffrages avec un taux de participation qui s'élève à 62,8%, a ainsi indiqué le président de la Cour suprême lors d'une conférence de presse. Pour une partie de l'opposition et de la société civile, le résultat de ce scrutin s'apparente à un plébiscite destiné à préparer l'élection du président de transition, le général Mamad Idriss Déby Itno.
L'invité.
Notre invité est Gershom Kahebe, acteur politique qui était candidat à la députation nationale dans la circonscription de Béni. Il propose des solutions pour améliorer les prochaines élections après tous les dysfonctionnements qui ont été dénoncés dans la tenue des élections du 20 décembre 2023 dernier. Gershom Kahebe s'entretient avec Alain Irung.
Gershom Kahebe, bonjour. Vous étiez candidat à la députation nationale dans la circonscription de Béni. Quelles leçons avez-vous tirées de cette élection? Quelles sont vos propositions pour que la CENI améliore son travail pour les prochains scrutins?
Bonjour, nous sommes à la 4e élection. Ça veut dire que nous devrions avoir des élections mieux organisées, plus crédibles et transparentes. Malheureusement, l'impression est que nous sommes en train de reculer. Les machines à voter ont été retrouvées dans des maisons des acteurs politiques certains, et même parfois dans la rue, entre les mains des acteurs politiques. Cela avant l'élection, pendant l'élection et après l'élection. Il y a eu des fraudes qui ont été planifiées et organisées à l'avance au niveau des bureaux de vote. Le taux de participation au vote a été très faible. Dans certaines villes, on parle même de 20%. Je pourrais proposer quelques solutions à tous ces problèmes qui pourraient nous permettre pour la prochaine élection de limiter des cas de fraude et de rassurer tout le monde. La première solution, c'est la digitalisation des élections présidentielles et législatives. On peut avoir une puce capable de lire les empreintes digitales de chacun. Un électeur devant la machine à voter devra tout d'abord, pour débloquer la machine, mettre son doigt sur la puce qui devra lire les empreintes et se rassurer que c'est la personne qui s'était enrôlée qui est en présence de la machine. Dès que cela est établi, la machine va se débloquer et la personne va procéder au vote. Si la même personne revient 2 fois ou bien va chercher à voter ailleurs, dès qu'il met son doigt sur la puce, celle-ci devra détecter qu'il a déjà voté, que le vote est déjà fait quelque part ailleurs. Et par conséquent, la machine ne va pas se débloquer. Cela, ça va empêcher que qui que ce soit vote pour l'autre ou bien vote 2 fois. Mais aussi, cela va résoudre le problème des listes. On ne pourra plus avoir besoin des listes, de voir, de chercher son nom, de retrouver son nom sur une liste pour voter. On peut voter de partout. On peut s'être enrôlé ici, on va voter là-bas. Parce que c'est le système qui gère les électeurs ainsi que leurs empreintes digitales. Deuxièmement, il faut une caméra de surveillance dans chaque bureau de vote. Ce qui veut dire que s'il y a contestation, s'il y a soupçon, on peut revoir la scène, tout ce qui s'est passé le long de la journée et savoir ce qui s'est passé. Et les agents de la CENI, s'ils savent qu'il y a quelqu'un qui peut être en train de les observer, ils vont se comporter en conséquence. Troisièmement, il faut criminaliser la fraude électorale. Sinon, eh bien, si tout le monde peut frauder et rester libre, ça encourage tout le monde d'organiser la fraude. Et si on constate que ceux qui fraudent, ce sont ceux qui sont élus, ça va pousser tout le monde à réfléchir comment frauder. Quatrièmement, il faut donner la valeur aux témoins. Il faut les valoriser et leur donner la possibilité de surveiller les opérations de vote du début à la fin.
Pour terminer, on sait qu'il y avait plus de 20 000 candidats à tous les niveaux et beaucoup n'ont pas pu battre campagne, on l'a vu sur terrain, alléguant le problème des manques des moyens. Quel conseil pourriez-vous prodiguer aux candidats pour les prochaines élections?
Tout d'abord, il faut savoir que c'est la loi électorale qui oblige qu'il y ait un si grand nombre de candidats parce qu'il y a un seuil électoral qu'il faut atteindre. Et pour l'atteindre, il faut aligner un nombre minimum de candidats. Et cela étant, les partis ont parfois des difficultés à financer un si grand nombre de candidats. Je crois que nous devrions comprendre tous que la campagne électorale, c'est la période où il faut expliquer à la population ce que vous voulez faire avec le mandat. Parce qu'on ne peut pas solliciter le mandat de la population pour rien. Je ne crois pas qu'il faut beaucoup de moyens pour cela. Il faut seulement choisir les moyens de communication efficaces et moins coûteux qui peuvent permettre de véhiculer le message, le projet de société que l'on a pour la population.
Gershom Kaebe, je vous remercie.